familial. Qu'est-ce qui revient quand vous parlez de ça, des odeurs, des gens, des moments?
Moi, j'étais née en 1987. J'ai vécu le choc de l'URSS. Donc, ce n'était pas facile pour tous. J'ai grandi dans une famille simple. Donc, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et oui, parfois, c'était assez difficile pour que ma mère paye une école ou les activités sportives, etc.
C'est vrai que la chute de l'URSS, c'est un événement historique dont on se souvient. On ne mesure pas aussi l'impact que ça a pu avoir sur des populations, sur vous, sur votre famille. C'était quoi concrètement les conséquences un petit peu de cette situation politique à l'époque? C'était rude, comme vous disiez, pour survivre?
Oui, c'était les conséquences étaient hyper graves pour la population. On se retrouvait dans... on peut dire pauvreté totale ou peut-être j'exagère un peu, mais par exemple les jeunes ils n'avaient pas son salaire, ils ont travaillé, ils ont continué à faire les choses, aller au travail dans les usines par exemple, dans une entreprise, mais il n'avait pas eu son salaire. Par exemple, un jour mon grand-père, il a reçu un salaire avec la boîte de lait concentré.
Ah oui, d'accord.
À tel niveau, oui.
On mesure bien le
genre de situation. Comme un enfant, parfois, je demandais à ma mère, je veux les joues, des belles joues comme Barbie ou quelque chose. Et parfois, elle m'a dit que non, on n'a pas d'argent. Je dis, c'est combien? Pas d'argent. Je dis, peut-être, c'est pas assez pour acheter du pain. Parfois, ça arrivait. Oui.
Alors, on mesure un petit peu les conditions de vie, du coup, à l'époque, qui étaient les vôtres. Dans ces conditions, justement, est-ce que le sport était possible, était accessible? Est-ce que vous faisiez du sport? Est-ce qu'il y a eu une rencontre avec le sport assez tôt, avec une passion sportive?
Les seules choses qui étaient accessibles pour tout le monde, beaucoup des amis me posent la question pourquoi toutes les Russes jouent au piano. Donc, à la base, nous avons visité de l'école musicale parce que c'était le plus accessible au niveau de l'argent.
C'était gratuit pour les enfants ou
un petit peu cher. Oui, ça coûtait pas trop cher. Et ça occupait bien des enfants. 5 heures par semaine complémentaires après l'école. Tout le monde... il y a beaucoup de gens qui visitaient qui sont allés à l'école musicale.
D'accord, très bien. Donc vous avez fait du piano pendant plusieurs années.
Oui, oui. Et concernant le tennis, ça a devenu possible un petit peu plus tard. Dans quelques années, quand j'étais déjà adolescent. Et oui, à l'époque, j'ai regardé beaucoup le télé, la compétition sportive. J'étais inspirée par Evgeny Kafelnikov, j'étais fan de Marat Safin. Oui, c'est pour ça, j'ai demandé à ma mère de m'inscrire à l'école de tennis.
D'accord, donc le tennis a toujours été important et c'est né d'abord devant la télé en regardant les grands tournois et les tennismans ou les tenniswomen de votre pays performer.
Oui, exactement.
Alors du coup, l'inscription dans le club de tennis, ça s'est fait à quel âge? À quel âge vous avez vraiment commencé à jouer, appris le tennis?
Je ne me souviens pas exactement, mais je pense que j'avais 2 ans, un petit peu.
12 ans, d'accord.
2 ans, oui. Mais j'ai pas joué beaucoup aussi pour la raison de l'argent. Ce n'était pas accessible pour tout le monde. C'était plutôt pour les gens qui ont de l'argent, plutôt pour des riches. Donc j'ai essayé un petit peu, j'ai appris un peu et après j'ai rêvé toute ma vie de reprendre, de commencer à jouer au tennis.
Et donc c'était quelque chose, une envie forte, mais inaccessible. Vous n'avez pas pu assouvir jusqu'au bout cette envie de jouer, quel que soit le niveau d'ailleurs, mais ce besoin de jouer, ce goût du tennis. Quoi.
Oui, exactement.
Et du coup, dans ce club, c'était quoi un petit peu l'environnement du club de tennis de la ville? Ça fonctionnait comment, les cours, etc.?
C'était le club dans une école dans la salle sportive d'une école qui était près de ma maison, un petit club sportif. Je ne me souviens pas beaucoup l'ambiance. J'avais un prof, une femme, et une petite groupe des étudiantes. Nous avons commencé de jouer le niveau débutant.
Et c'était le tennis ou le sport était assez présent dans la famille, peut-être des frères et sœurs ou par les parents, ou non, c'est vraiment venu par vous directement?
Non, mes parents ne jouent pas au tennis. Mais c'était mon...
Ils sont sportifs néanmoins ou...
Un peu, mais pas professionnellement.
Il y a un moment déclencheur pour ce goût du tennis, c'est vraiment devant la télé, comme ça, par hasard, de tomber sur un tournoi. Vous allez souvenir d'un premier moment qui fait naître un petit peu le goût du tennis, de ce jeu?
Oui, c'est exactement ça. Je pense que c'était né devant la télé. Je regardais les championnats, il y avait des nouveaux chaînes de télé qui ont apparu, comme Sport, Eurosport, je pense que c'était ça. Et je regardais beaucoup des matchs de tennis, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est aussi quelque envie de faire quelque chose moins accessible.
Ok, donc on a un petit peu parlé de votre ville de naissance, de votre enfance en Russie. Comment ça s'est passé le départ? À un moment donné, vous êtes parti de Russie, vous êtes ici aujourd'hui à Angers. Le départ de la Russie, à quel âge vous êtes parti? Est-ce qu'il y a eu des voyages avant, il y a eu des étapes avant d'arriver à Angers?
J'ai quitté la Russie en 2019 pour faire mon master en intelligence économique, stratégie compétitive à l'international.
Ouf, waouh.
Oui, de l'université d'Angers. Oui, en Russie, j'ai travaillé beaucoup dans le marketing opérationnel, gestion des projets. J'arrivais toujours à approfondir mes connaissances dans la stratégie. Et cette formation m'a permis de le faire.
Donc, vous faites vos études de marketing en Russie, vous commencez à travailler. Et puis après, en 2018-2019, il y a cette opportunité de continuer avec un master qui est proposé à l'Université d'Angers. Pourquoi l'Université d'Angers? Pourquoi la France? C'était à la fois le désir de continuer des études et aussi le faire dans un autre pays, dans une autre culture?
Oui, exactement. C'était le cas. En plus, ma mère, elle a déménagé en France en 2009. Elle était mariée. Donc moi, j'ai visité beaucoup la France, beaucoup de pays. Je connais la tradition d'un pays. J'aimais beaucoup. Et oui, j'ai essayé. C'est comme ça, une idée est venue de reprendre mes études. Et si on compare les pays différents, à l'époque, c'était gratuit. Pour les étudiants étrangers, on avait la possibilité de postuler, de le faire gratuit. Oui, c'était aussi l'époque de la réforme de Macron, quand il a changé cette règle que toutes les étrangères, maintenant, il y a beaucoup de formations qui proposent, il faut payer. La formation payante.
D'accord, donc vous avez bénéficié aussi d'un accueil particulier et de ce master gratuit à l'université en tant qu'étudiante venant de
Exactement.
Russie.
J'ai eu de la chance grâce à la direction de l'université Angers qui était contre cette réforme. Oui, j'ai eu de la chance d'avoir ma formation gratuite.
Alors le nom, l'intitulé de la formation du master nous a fait un peu peur tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consistait cette formation, quelle est un petit peu cette discipline?
L'intelligence économique, c'est le domaine de l'économie des connaissances. Donc c'est la collecte d'informations dans la vie quotidienne des grands groupes, des entreprises, pour prendre les décisions stratégiques. Donc, on collecte l'information sur des competitors. Pardon, pourquoi je parle anglais? Franglais. Oui, sur les produits des concurrents, sur concurrents, sur l'environnement externe d'une entreprise.
Donc c'est vraiment la collecte d'informations en tout genre, son traitement pour ensuite orienter les décisions, les prises de décisions à l'intérieur d'une entreprise.
Oui, D'accord. Ça peut appliquer que dans les entreprises privées. Et il y a aussi une grande partie de géopolitique, de l'analyse des réseaux sociaux, de mouvements sociaux, etc. Mais c'est plutôt la politique. C'est... Oui, moi, je suis plutôt orientée vers le domaine du marketing, de promouvoir des produits, de prendre les décisions stratégiques au niveau de produits, de développement d'une entreprise.
Et aujourd'hui, ce master, cette compétence, elle prend forme comment dans votre vie professionnelle? Vous travaillez avec dans une société en particulier? Comment ça se passe?
Oui, je travaille pour une société angevine dans le commerce international. Et ça m'aide beaucoup, oui, cette formation de collecter l'information sur mes clients pour ça aussi, ça affecte les négociations, des résultats des négociations pour réussir, pour négocier des bonnes conditions avec pour tout le monde.
Très bien, on va revenir un petit peu au déplacement dont on parlait tout à l'heure. Donc, on a compris que votre mère déménageant en France entre 2009 et 2019, vous avez fait souvent, peut-être annuellement, vous nous direz, des voyages en France pour venir la visiter. Elle habitait où? Qu'est-ce que vous avez découvert de la France au fur et à mesure? Est-ce que ça vous a donné envie aussi d'y passer un plus long temps?
Ah oui, j'adore la France parce que vous avez beaucoup de beaux paysages, beaucoup de beaux climats, des montagnes, de la mer, l'océan, un petit même désert du Népila. Oui, j'ai visité beaucoup et j'adore la culture, les musées, les arts, et tout ça. Oui, j'ai pas mal visité la France à partir de ma mère habite à Cahors. Et oui, après je voyageais beaucoup en France, des Alpes, de Biarritz, Bretagne, Paris.
Vous avez pas mal crapahuté à travers le pays. C'est quoi vos endroits coup de cœur ou vos moments coup de cœur que vous avez vécu avec la France, peut-être dans des lieux, dans des musées?
Il y a beaucoup de coups de cœur. Il y a des montagnes aussi. J'aime bien les endroits inhabituels. Junépila, j'aime bien. Ça me rappelait beaucoup de l'Égypte, des serres de l'Égypte. Oui, c'est très étonnant de voir ça en France. Et j'adore Étretat, des falaises de Étretat, Biarritz, avec son culture de surf. Oui.
C'est vrai que c'est un pays qui a une variété de paysages exceptionnels avec beaucoup de bords de mer très différents. Est-ce que vous avez ici rencontré aussi une population russe? Est-ce que il y a d'autres personnes qui viennent de la Russie que vous côtoyez, par exemple, dans le club ou ailleurs?
Dans le club, pas encore, mais il y a beaucoup de Russes en France. Oui, il y a une grande communauté grave. À l'époque du 19e siècle, 16e siècle, je pense que oui, c'était toujours. Notre pays était toujours très trop proche. On a pris en Russie beaucoup de la culture française. Dans les familles bourgeois russes, nous avons invité toujours les enseignants français et notre bourgeoisie à l'époque, ils ont parlé les français. Si vous allez lire Tolstoï, il parle en français. Sa livre commence en français.
Ouais, il y a ce lien par rapport à la littérature, à la langue française, qui est assez prégnant entre les deux pays.
Oui, oui, c'est vrai. Oui, au niveau de familial, des relations entre les tsars, des rois ou de bourgeoisie, je sais pas, on était toujours assez proches.
Vous, dans votre relation, alors. C'est plus comme avant où vous veniez visiter votre mère, vous étiez là en touriste. Aujourd'hui, vous habitez ici à Angers. Qu'est-ce qui change aussi dans votre quotidien? Est-ce que il y a aussi un déracinement? Il y a un manque aussi de quelque chose de la Russie? Il y a des découvertes aussi positives, négatives de la vie d'ici? Comment vous analysez tout ça?
C'était un peu difficile de s'habituer au niveau administratif. comme étrangère, on a beaucoup de contraintes administratives. Au niveau de, il faut prolonger le titre de séjour, ça dépend de ton travail, de ton statut en tant qu'étudiante ou travailleur, est-ce que tu as, si tu as CDD ou CDI. Donc, oui, c'est le côté pas facile dans la vie des étrangères.
Ouais, beaucoup de contraintes dont on se rend pas compte, peut-être si on n'est pas dans ce cas-là.
Oui, et, Angers, c'est une ville que j'adore. C'est une ville très très verte. Il y a beaucoup d'espaces verts, très agréable. C'est une petite ville avec l'ambiance de convivialité. Quand les gens se saluent pendant la promenade, qu'on ne trouve pas dans les grandes villes russes ou même Paris. Oui, mais parfois, il me manque un peu de dynamisme de ma ville natale, de ma vie professionnelle, parce que on dirait que j'ai commencé toute de zéro. C'est un peu difficile. Il y a aussi les contraintes de langage. Quand je suis arrivée en 2019, j'ai pas parlé français. Les premières 5 ou 4 mois, je fais que écouter mes amis.
Vous ne parliez pas français, vous aviez pas appris le français auparavant ou trop peu pour mener une conversation courante et aisée, c'est ça?
Oui, exactement. Pour être pour postuler à l'université, il faut avoir le diplôme de langue française niveau B2. Mais moi, j'ai appris avant de venir ici pendant 6 mois. Donc c'est pas assez. C'est assez pour passer l'examen, pour avoir le note. Qui te permet de postuler à l'université, mais c'est pas assez pour parler librement, pour s'exprimer, pour...
Oui, donc au début, il y a une posture un petit peu frustrante d'être, comme vous disiez, dans l'écoute, et c'est difficile d'exprimer tout ce qu'on voudrait, de participer aux échanges de manière simple.
Oui, exactement. J'ai une astuce, je fais exprès de ne pas avoir des amis russes, pour être impliqué complètement dans l'ambiance française.
Ouais, c'est admirable comme effort, parce que c'est vrai que ça peut être aussi rassurant d'aller trouver des petits vestiges de sa vie russe et de se lier d'amitié avec d'autres expatriés comme ça. C'est chouette aussi, mais c'est un super effort pour apprendre la langue, effectivement, de se rapprocher plutôt de ceux qui parlent français, avec toutes les difficultés que ça peut occasionner, j'imagine, au début.
Oui, vous avez raison. Je pense que les gens qui étaient nés dans les années 90 en Russie, ils ont le caractère fort. Ouais, On a vécu beaucoup de contraintes, les crises économiques, une fois par 5 ans, quand tu n'as pas de salaire ou tu travailles, ils te donnent partie par partie. Oui, c'était il y a 20 ans.
Ouais, on en revient au début de la conversation et des conditions de vie à cette époque qui forge aussi un caractère. Vous sentez que ça vous a donné aussi, ouais, une force, un caractère pour vivre ce genre d'épreuves ou de mouvements, de déplacements comme vous avez vécu de la Russie vers la France.
Oui, je pense que c'est ça. Tout était formé en enfance. Notre envie, des rêves, caractère.
Ouais, il fallait s'extraire de quelque chose de dur, quoi.
Oui, c'est vrai. Pour réussir en ce moment-là, en Russie, il faut travailler beaucoup.
Alors, on parlait d'Angers, de cette ville que vous appréciez beaucoup. Et il y a l'environnement professionnel et puis il y a l'environnement sportif aussi, parce que vous êtes devenue depuis décembre dernier, depuis très peu de temps, la présidente donc du club de tennis Saint-Léonard Angers. Alors, comment ça s'est fait, ce lien au club? C'est pas anodin de devenir présidente. C'est un engagement chouette. Comment ça s'est fait, la rencontre avec ce club? Dès que vous êtes arrivé en France en 2019 pour les études, vous aviez envie de continuer à jouer au tennis et vous avez trouvé ce club. C'est comme ça que ça s'est fait au départ?
Oui, mais je joue aussi. J'ai repris le tennis récemment à partir de septembre. Et exactement, que dès que j'avais un peu de moyenne pour me permettre de payer au sport, de m'inscrire pour élargir mes liens, pour m'occuper, parce que je travaille actuellement à mon compte, à temps partiel. Donc, j'avais du temps libre pour le sport aussi.
Donc, vous avez repris vraiment le jeu récemment.
Oui, j'ai commencé, oui, parce que c'était une rêve d'enfance qu'on peut se permettre maintenant.
Parce que pendant les années, même de vie d'adulte, d'étudiant en Russie, vous jouiez pas trop ou par intermittence
Non, pendant ma vie adulte en Russie, non, j'ai pas joué au tennis. Je sais pas pourquoi, mais cette idée n'a pas venu.
Ouais, en tout cas, il y a toujours ce côté inaccessible, cette impossibilité, malgré le petit rêve initial d'enfant. Et aujourd'hui, et depuis septembre à Angers, vous pouvez un peu plus jouer, un peu satisfaire un petit peu ce goût pour le tennis.
Oui, c'est ça. Mais en Russie, récemment, ça est devenu aussi plus accessible. Mais oui, peut-être j'étais trop concentrée sur ma carrière. Je travaillais comme responsable marketing, j'ai beaucoup travaillé, voyagé, je faisais plutôt le ski.
D'accord. Oui, c'était pas forcément le tennis la priorité à ce moment-là. Et alors du coup, depuis septembre, voilà, vous êtes sur le court de tennis, vous jouez de temps en temps, c'est une joie supplémentaire aussi dans la vie de pouvoir satisfaire un peu ce goût-là pour ce jeu que vous avez.
Oui, c'est exactement le cas. Je joue du temps. Je joue une fois par semaine et j'ai choisi Tesla, le club Tennis Saint-Léonard, parce que c'est le club de quartier. C'est pas loin de d'une maison où j'habite. Et aussi j'ai choisi pour au niveau de prix. Si on compare quelques autres clubs d'Angers, le prix est trois fois plus cher. Dans quelques autres clubs.
Oui, donc c'est un club de tennis accessible, enfin qui fait de l'accessibilité, hein, une dimension importante aussi pour pouvoir accueillir tout le monde à des prix
actuellement nous sommes en train de penser d'établir, définir notre stratégie avec la commission de communication. Et oui, c'est d'abord le club de quartier, mais quand même, actuellement, on a 550 adhérents. Donc, c'est un grand club.
550. Ah oui, d'accord, c'est autre chose. 550 licenciés adhérents. Okay.
Oui, on a beaucoup d'adhérents. Ouais. Et 60% de notre adhérents sont jeunes. Donc, on peut dire qu'on a beaucoup des enfants dans le club. Et on essaie de garder cette ambiance de convivialité, l'ambiance de club de quartier. Mais par contre, on a des ambitions de notre enseignant, des profs, des ambitions professionnelles, de gagner des tournois, d'investir dans les enfants, dans le sport, pour grandir des petits champions.
Oui, aussi le côté convivial, accès pour tous, et puis de créer aussi une unité un petit peu vers la performance pour peut-être former des joueurs de bon niveau qui auraient envie de l'être, en tout cas.
Oui, c'est ça. Et le club, c'est pas le club privé, ça appartient aussi à la mairie. Donc la mairie, elle investit aussi beaucoup dans le développement de club. Oui, je pense que...
Oui, c'est un partenaire, la mairie est partenaire pour vous dans son développement. Comment ça s'est fait de vous retrouver présidente comme ça depuis le mois de décembre dernier? C'était une envie de vous investir?
Oui, je pense que c'était plutôt les ambitions professionnelles d'impliquer mes compétences que j'ai appris en Russie, dans les compétences dans le management d'équipe, de marketing, le développement. Que je n'arrive pas toujours à impliquer ici dans ma vie professionnelle à cause de quelques contraintes d'étrangères, de langage, etc. Et oui, je sens que c'est très utile dans notre équipe de tennis. Et les gens, ils avaient la confiance en moi. je remercie beaucoup notre équipe, l'association des profs, de toutes les adhérents pour ça.
Et en plus, c'est une confiance qui fait chaud au cœur et qui vous donne envie de vous engager pour eux, pour créer des bonnes conditions et porter un projet pour tous ces licenciés qui vous ont fait confiance.
Oui, c'est vrai. Ça donne envie de travailler, d'investir dans la vie d'un club. Et on a une belle ambiance là-bas, comme une petite famille, des amis. On fait des tournois pour des adultes, les tournois pour les gens. On a une petite clubhouse où on peut prendre un café, du thé, faire petite fête, galette.
Oui, c'est un lieu de vie ensemble, au-delà du tennis.
Oui. C'est pas que du tennis, c'est pas que du sport, c'est l'endroit où tu peux trouver des amis et le soutien.
Alors ça se passe au tennis club de Saint-Léonard, donc juste en face de la piscine Jean-Bouin et du stade Copa. Alors Alissa, dernière question rituelle aussi avant de se quitter. Quand est prévu éventuellement votre prochain voyage en Russie, votre terre natale?
J'ai pas encore planifié, mais j'essaie de visiter la Russie, c'est environ une fois par an. Donc je suis allée en avril dernier, et maintenant je sais pas, ça dépend de mes projets professionnels. Donc j'ai pas encore planifié le voyage prochain, mais je pense que peut-être ça peut arriver le septembre.
Très bien, merci beaucoup Alissa pour votre visite.
Merci beaucoup Valentin.
Merci à toutes et à tous et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Venu d'ailleurs.
Radio G 101.5 FM.
Connaissez-vous l'IGEDD ou l'IGED? L'IGEDD, c'est l'Inspection Générale de l'Environnement et du Développement Durable. Elle conseille le gouvernement sur la transition écologique et énergétique, l'urbanisme, le logement, les mobilités, l'eau, la biodiversité. Découvrez le rapport annuel 2024 en podcast sur les plateformes ou sur www.igedd.développement-durable.gouv.fr.
Et tu viens près de tout.